Il est 18h et vous écoutez France Inter. Bonsoir Fabienne Synthèse.
Bonsoir Charline et tout le monde. À demain pour de nouvelles aventures. Nous c'est parti, le 18-20 de France Inter est ouvert. Bienvenue sur la planète et sa banlieue. Et pour commencer, comme tous les soirs, le premier journal de la soirée est signé Amélie Perrier. Bonsoir Amélie.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel de ce lundi 14 octobre commence bien sûr avec les suites de l'offensive turque et ses conséquences.
Les États-Unis confirment le retrait de leurs soldats de Syrie. Les milices kurdes attaquées par la Turquie reçoivent désormais le soutien des troupes syriennes de Bachar al-Assad. Ce retrait menace également la stratégie de la France. Nous avons des forces spéciales sur le terrain, mais peut-être plus pour très longtemps. Un Nobel de l'économie décerné à une femme et à une Française. Double raison de s'intéresser à ce prix remis aujourd'hui à Esther Duflo et à deux autres chercheurs qui ont révolutionné l'économie du développement avec des expériences de terrain pour combattre la pauvreté. Des peines de 9 à 13 ans de prison contre les séparatistes catalans en Espagne. Les indépendantistes révoltés manifestent à Barcelone ou à Gérone. Irréductible, lui aussi, Astérix revient en librairie. On vous révèle les premiers détails de ce nouvel album, La fille de Vercingétorix, avec des personnages résolument modernes.
À 18h15, un jour dans le monde, nous aussi, nous sommes entre la Turquie, la Syrie, l'Irak, bien sûr. Que penser donc des arrivées de Syriens? Quel risque pour l'après? Est-ce que les Turcs veulent aller plus loin que prévu? Que dire de notre impuissance européenne? On y vient avec le premier invité ce soir. Le bruit du monde est à Hong Kong pour prendre des nouvelles de la rébellion qui se poursuit. Et puis 19h20, le téléphone sonne, cette fameuse émission d'M6 qui veut nous faire rajeunir de 10 ans, a beaucoup alimenté les réseaux sociaux. Essayons de creuser ce qui nous emmène là. Est-ce que la chirurgie esthétique est devenue banale? Est-ce qu'elle creuse un peu plus les inégalités? Et aujourd'hui, on cherche quoi? À ressembler à ses filles sur Instagram, à copier des lèvres, des fessiers, des seins, des pommettes? Parce que, le saviez-vous, qui a le plus recours à la chirurgie aujourd'hui? Ce sont les 18-34 ans. Vos témoignages au 01 45 24 7000.
France Inter.
Des mouvements de troupes en Syrie donc, les belligérants se réorganisent.
Après l'accord conclu entre les Kurdes et le régime syrien de Bachar al-Assad. Un retournement puisque Damas critique régulièrement l'autonomie instaurée par les Kurdes en Syrie. Désormais donc, les troupes de Bachar al-Assad viennent en soutien aux Kurdes sous le feu de la Turquie depuis la semaine dernière. Notre envoyé spécial Aurélien Collier est côté kurde. Bonsoir Aurélien. Aujourd'hui bonsoir, vous êtes allé de Syrie en Irak, dans le nord-ouest du pays, là où les renforts syriens arrivent aux côtés des Kurdes. Dites-nous où en est la situation sur le terrain.
Alors Amélie, selon les forces kurdes, les combats se poursuivent sur les principaux axes de l'offensive turque, à l'est d'abord, dans les localités de Tel Abyad, Serekaniye, et plus au sud, à Ayn Issa, où l'armée syrienne est désormais engagée, pas directement contre des soldats turcs, mais contre les milices armées et déployées par Ankara. Une source kurde me décrivait une situation chaotique dans ces zones de combat. Situation également à l'ouest, où là, on se bat pour le contrôle de Manbij et de Kobané. Alors le drapeau national syrien remplace également celui du Kurdistan syrien dans deux grandes villes au nord-est où il n'y a pas de combat. C'est Asaké et Kamishli. Du côté du régime syrien, depuis le début de la journée, on met en avant le retour de ce nord-est dans le giron du pouvoir. Images et commentaires en boucle dans les médias d'État. De leur côté, les autorités semi-autonomes kurdes tentent de nuancer en indiquant que l'accord avec le régime de Bachar al-Assad n'est que militaire, qu'il ne concerne que le contrôle des frontières extérieures et la lutte contre cette offensive turque et que l'administration civile et la sécurité intérieure restent bien leurs prérogatives.
Aurélien Collier en direct du Kurdistan irakien avec Benjamin Chauvin au moyen technique. Grand merci à vous deux. L'offensive de la Turquie sur les Kurdes est, rappelons-le, la conséquence du retrait des troupes américaines décrété par Donald Trump. L'ordre a été donné aux soldats cet après-midi. L'autre répercussion de ce départ américain concerne directement la France. Elle a des forces spéciales en Syrie. Nathalie Hernandez, notre spécialiste des questions militaires, Paris, contraint de rendre publique la présence de ses soldats d'élite au sol là-bas, va devoir maintenant les rapatrier et trouver une nouvelle stratégie.
La situation dans le nord-est syrien est extrêmement volatile et confuse, confirme un haut gradé. Les soldats français, ils sont plusieurs centaines issus des forces spéciales, ne vont pas faire face à l'artillerie turque et sans le soutien américain, il n'est pour l'instant plus possible pour eux de remplir leur mission, c'est-à-dire la lutte contre les terroristes de l'État islamique ou d'Al-Qaïda dans la région. D'où la nécessité de les mettre à l'abri. Dans les airs, l'heure est également à la prudence et à l'attente. La France, qui dispose d'avions de chasse en Jordanie, ne va pas risquer d'envoyer ses pilotes dans un espace où peuvent s'affronter forces syriennes, russes et turques. Paris va donc accentuer ses efforts diplomatiques avec ses partenaires de la coalition contre Daesh, avec l'OTAN et les Nations États-Unis pour faire cesser cette offensive, mais aussi pour éviter une résurgence des groupes terroristes. La ministre des Armées, Florence Parly, a elle prévu de son côté de s'entretenir avec ses homologues américains et turcs.
Et du terrain de guerre au terrain de foot, hasard du calendrier sportif, ce soir au Stade de France, les Bleus jouent contre la Turquie. Match qualificatif de l'Euro 2020, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, annule sa venue dans les tribunes. Lors d'un précédent match, les joueurs turcs ont fait un salut militaire, signe de patriotisme ou de soutien à l'armée turque. Plusieurs responsables politiques ont réclamé cet après-midi l'annulation de la rencontre. Pas question, a répondu la Fédération française.
À la une ce soir également, Amélie, le prix Nobel d'économie remis à une Française.
À Esther Duflo, expatriée aux États-Unis, prix Nobel également pour son mari, Abhijit Banerjee, et à l'américain Michael Kremer de Harvard pour leurs travaux sur la pauvreté dans le monde et les moyens de la réduire. Un trio de chercheurs avec des méthodes innovantes, une approche expérimentale, des expériences sur le terrain pour mesurer l'impact de micro-politiques en matière d'éducation ou d'accès aux soins en Inde ou encore en Afrique. C'est désormais cette méthode qui domine l'économie de développement, comme le reconnaît l'eurodéputé Pascal Canfin, ancien ministre délégué au développement.
C'est très important que ces travaux soient reconnus parce qu'ils ont complètement modifié l'approche de l'aide publique au développement. Historiquement, on avait une approche macroéconomique à travers des grandes données, des grands flux, des grandes infrastructures. Et on s'est aperçu grâce aux travaux d'Esther Duflo et de ses équipes que justement ce qui importait c'était le micro. Comment concrètement une famille pouvait trouver les arrangements quand elle vit à quelques dizaines de kilomètres de l'école pour faire en sorte que les enfants soient réellement scolarisés. Comment faire en sorte que les familles prennent vraiment les médicaments contre le virus du sida quand c'est mal vu d'avoir ce virus et donc prendre le médicament, c'est quelque chose qu'on va plutôt cacher, etc., etc. Des choses très, très concrètes dans le quotidien des familles, des écoles, des hôpitaux, etc., pour voir quelles mesures avaient le meilleur impact de lutte contre la pauvreté et pas se contenter de grands discours ou de grandes négociations à coups de milliards qui, au fond, se perdent assez facilement dans les sables.
L'eurodéputé Pascal Canfin, interrogé par Laurent Kramer. Et pour les Nobel, il reste du travail puisque la Banque mondiale estime environ à 700 millions le nombre de personnes vivant aujourd'hui dans l'extrême pauvreté sur le globe. De retour dans la rue à Hong Kong, des dizaines de milliers de manifestants ont investi le centre de la mégalopole. Ils lancent un appel à la communauté internationale pour qu'elle les soutienne. Appel aux élus américains également pour qu'ils votent des sanctions contre les dirigeants chinois accusés par les protestataires de contrôler le territoire semi-autonome. Intransigeante, la justice espagnole face aux indépendantistes catalans. Elle lance un mandat d'arrêt international contre l'ancien président de la région, Carles Puigdemont. Quelques heures plus tôt, elle condamnait 9 responsables séparatistes à des peines de prison ferme, de 9 à 13 ans d'enfermement pour avoir tenté de faire sécession en 2017. À l'énoncé du verdict, les militants ont envahi les rues de Barcelone. Des milliers de Catalans réunis dans le centre de leur capitale régionale pour demander, je les cite, la libération des prisonniers politiques. Manifestation aussi à Gérone, la ville de l'ex-président Carles Puigdemont, où l'on vous retrouve. Sébastien Berriot, bonsoir.
Oui, bonsoir.
La mobilisation est forte depuis l'annonce du verdict, Sébastien.
Effectivement, les habitants de Gérone ont répondu par milliers à l'appel lancé par le camp indépendantiste. Quelques minutes après l'énoncé du verdict, mouvement complètement spontané. Tout le monde s'est retrouvé dans le centre-ville avec de la tristesse et aussi de la colère. Mercé, 62 ans, n'arrive pas à croire comment de telles peines ont pu être prononcées.
Nous sommes en colère. Ces politiciens qui sont en prison ont lutté pour l'indépendance de Catalogne pacifiquement, sans violence. Tristesse pour ces gens, sont notre politicien, sont notre compagnon. Nous donnons notre support et un embrassement très fort.
Allez. Sébastien Berriot, on vous retrouve. Êtes-vous encore là?
Oui, dans la foule également, Johan, un proche de l'ancienne ministre catalane du Travail, Dolores Bassès, qui fait partie des condamnés.
Je ressens une grande douleur pour Dolores, qui a été condamnée à 12 ans de prison. C'est une amie à moi. On a été au syndicat ensemble. Elle n'a rien fait de mal, juste à aider à organiser un référendum. Je pense à elle chaque jour en prison. Mais nous allons continuer le combat. Vive la Catalogne, vive la République et vive l'indépendance.
Visca Catalunya, visca la República, visca la independència.
Les habitants de Gérone continuent de manifester. Ce soir, ils ont occupé tout à l'heure les voies de la gare TGV. Pour le moment, les forces de l'ordre ne sont pas encore intervenues, même si elles sont présentes en très grand nombre.
Merci Sébastien Berrion, direct de Gérone en Catalogne, d'où cette liaison un peu capricieuse.
Il est 18h10 sur France Inter. L'Assemblée nationale débute aujourd'hui son marathon budgétaire.
Le projet de loi de finances, le troisième du quinquennat Macron. Les députés commencent l'examen du volet ressources de l'État, c'est-à-dire les impôts et les taxes pour remplir les caisses publiques. Le gouvernement veut plus de 9 milliards d'euros de baisse d'impôts, dont 5 milliards d'impôts sur le revenu. La taxe d'habitation sera supprimée pour 80% des ménages. À Rouen, les producteurs de lait vont pouvoir vendre à nouveau leur lait. Le préfet lève à l'instant les mesures de restriction mises en place après l'incendie de Lubrizol. Le maire de Langouette, lui, est venu défendre son arrêté anti-pesticide devant le tribunal administratif de Rennes. La préfecture l'attaque car, selon elle, ce n'est pas de sa compétence. Une centaine de sympathisants sont venus soutenir l'élu, dont les maires de Malakoff ou Gennevilliers en région parisienne, qui ont eux aussi pris des arrêtés similaires. Le jugement sera rendu d'ici 2 semaines, a précisé le président du tribunal. Préserver sa santé et ses poumons, cela passe aussi par l'arrêt du tabac. Les fabricants de cigarettes électroniques revendiquent leurs bons résultats en la matière, notamment aujourd'hui au sommet de la vape, un rendez-vous de scientifiques et d'entreprises commerciales. 700 000 fumeurs ont arrêté grâce au vapotage, c'est un chiffre de Santé Publique France. Un chiffre impressionnant, Daniel Messager, bonsoir, qui se vérifie aussi à l'étranger.
Oui, ainsi aux États-Unis, dans la tranche d'âge 18-24 ans, c'est celle où le tabagisme est le plus élevé. On a constaté un abandon drastique du tabagisme grâce à la cigarette électronique. Le professeur David Levy de l'université de Georgetown à Washington est spécialiste de l'évaluation de l'usage du tabac et du vapotage.
En 2013, le taux de tabagisme était à peu près de 16%. En 2018, il est tombé à moins de 8%. C'est une diminution de 50%, une très très grosse diminution. Je ne l'avais jamais vu dans un autre pays. Pour autant, on doit continuer à surveiller.
Malgré quelques décès aux États-Unis dont on a beaucoup parlé, liés à la consommation de produits huilés à base de cannabis ou de vitamine E, c'est un mauvais usage évidemment très dangereux. Il ne faut pas déconsidérer la e-cigarette pour l'arrêt du tabac. C'est le professeur Benoît Vallet qui le dit, il est ancien directeur général de la santé et c'est lui qui avait piloté les débuts de l'e-cigarette en France.
On a d'un côté un produit pour lequel il n'y a pas, pour le territoire européen et pour la France, d'usage.
Pas du tout.
On en est sûr. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où quelques accidents liés à l'usage de produits frelatés sont à mettre en regard d'une mort certaine par l'utilisation du tabac, avec les 1500 morts par jour que connaît l'Amérique du Nord avec le tabagisme. C'est ça la réalité.
Alors pas de chèque en blanc pour autant. Les recherches doivent se poursuivre. Mais pour cela, il faudrait augmenter le budget consacré au tabagisme et aux addictions qui n'atteint en France que 15 millions d'euros.
Merci Daniel Messager, notre spécialiste santé à France Inter. Lui, il est en pleine forme. Il a sa potion magique. Astérix est de retour. Le plus célèbre des Gaulois revient dans un 38e album, La fille de Vercingétorix, en librairie dans 10 jours, le 24 octobre. Les auteurs ont levé une partie du voile sur la nouvelle aventure d'Astérix, Jacqueline Pétrose. Vous les avez rencontrés et vous savez notamment qu'ils ont créé de nouveaux personnages. Alors, c'est pas une trahison ni une coquetterie, explique-t-il, mais simplement une manière de continuer à donner vie, à parler aux nouvelles générations. C'est ça, Jacqueline ?
Oui, tout à fait. C'est en imaginant une jeune fille grognon mais combative que Jean-Yves Ferry et Didier Conrad mettent en lumière la jeunesse et créent un trio au cœur de cette nouvelle aventure. Alors, il y a peu de femmes personnages principaux chez les Irréductibles Gaulois. Voici donc Adrénaline, la fille de Vercingétorix, ado longiligne à la longue tresse rousse. Astérix et Obélix vont garder un œil sur elle avant qu'elle ne parte pour Londres pour échapper à César qui veut récupérer le torque, le collier honorifique que son père lui a remis après Alésia. Alors, créer un nouveau personnage de plus féminin était indispensable pour Jean-Yves Ferry et Didier Conrad, pour ne pas tourner en rond et pour garder ce qui fait le sel de ce petit Gaulois, l'air du temps. Didier Conrad.
Les personnages féminins qui existaient sont vraiment ancrés dans la période des années 70-80. Et bon, avec l'évolution des mœurs, c'est vraiment très différent. On ne peut pas vraiment beaucoup les utiliser maintenant. Donc en ajoutant des nouveaux personnages qui sont ancrés avec des références d'aujourd'hui, c'est vraiment la possibilité de perpétuer Astérix et de le rendre toujours actuel. Parce que sinon, on va retomber sur les mêmes choses, on va rien apporter de vraiment intéressant.
Alors on découvre aussi les fils du poissonnier et du forgeron, hein, Blinix et Selfix. Et le changement dans la continuité, c'est aussi l'actualité, toujours présente, avec dans cette aventure la pollution et l'homoparentalité.
Merci Jacqueline Métros. Blinix, c'est ça ?
Blinix et Selfix.
La fille de Vercingétorix, c'est le nouvel Astérix chez Hachette. Il sort le 24 octobre. Quelques mots de foot pour terminer. Avec un nouvel entraîneur à Lyon, c'est finalement Rudy Garcia qui va s'occuper de l'OL. À Toulouse, c'est Antoine Comboiré qui vient d'être nommé entraîneur. Quant à Neymar, la star du PSG, eh bien, il est blessé et il sera absent 4 semaines des terrains.